Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une des rares figures médiatiques de prêtre qui n'a pas aujourd'hui mauvaise presse. Invité régulièrement sur les plateaux télé, ce jeune abbé avec col romain est devenu une figure des jeunes prêtres français. Dans un troisième livre récemment paru spécialement destiné à la jeunesse, ce dernier lance un appel à l'engagement radical. J'ai nommé l'abbé Pierre-Hervé Grosjean. Cette émission Vivante Église ce matin donc avec le dernier livre du père Pierre-Hervé Grosjean. Vous êtes donc prêtre du diocèse de Versailles, curé de la paroisse de Saint-Cyr-l'École et donc vous faites partie des quelques prêtres qui animent le Padre Blog, connu de certains, et vous êtes donc l'auteur d'un livre récemment paru, Donner sa vie, paru aux éditions Arthège avec ce sous-titre, Pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie ? Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à l'occasion d'un de vos passages à Toulouse au micro de Vivante Église. J'avais une première question, alors qui va peut-être un petit peu vous agacer, mais dans le climat, on va dire, extrêmement difficile et délétère qui est celui, j'allais dire, de la vie de l'Église, ou en tout cas de sa, comment dire, de ce qu'on en dit dans les médias, le jeune prêtre que vous êtes, vous êtes encore vu comme un jeune prêtre ou représentant de ces prêtres, vit cette période, vous me disiez, période pourrie, en commençant avant l'émission.
Oui, c'est vrai que c'est une période qui est douloureuse, je trouve, à plusieurs titres. D'abord, elle est douloureuse parce qu'on découvre que beaucoup ont été trahis dans la confiance qu'ils avaient dans l'Église ou dans des hommes d'Église. Et c'est d'abord ça qu'il faut dire. Douleur de voir que beaucoup de jeunes ou de moins jeunes ont pu souffrir par l'Église, par l'infidélité de certains hommes d'Église, par parfois des fautes très graves commises. Et ça, c'est la première des douleurs qui est portée par tous. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes dans une famille. Si un jour un membre de votre famille fait une grave erreur, une grave faute, c'est pas vous qui l'avez faite, mais vous êtes quand même, vous la portez quand même. Comme par une sorte de solidarité. Et là, ce qui est encore plus terrible, c'est que c'est un membre de la famille qui a fait une faute sur un autre membre de la famille. Et donc toute la famille est à la fois bouleversée, abîmée. Et ça, c'est très douloureux. Douloureux aussi parce que la faute de quelques-uns, d'une minorité, d'une toute petite minorité, rejaillit sur, évidemment, comme un soupçon sur l'ensemble. Et moi, je veux aussi penser à l'immense majorité de mes confrères qui essayent de bien faire leur service, qui ont donné leur vie vraiment pour servir et qui servent vraiment. Et le poids du soupçon, le climat de méfiance, la façon dont tout ça est parfois traité médiatiquement est douloureux.
Vous en parlez entre vous, entre jeunes prêtres ?
Vous savez, il y a deux prêtres qui sont suicidés, il y a quelques mois à peine. Ils avaient mon âge à peu près, hein. Et ça nous a bouleversés. Ça nous a fragilisés, je pense. Ça nous a bouleversés. Donc voilà, c'est une Église qui souffre, des fidèles qui souffrent, des prêtres qui souffrent. Je me méfie beaucoup des raisons, des solutions toutes faites ou des raisons. Je crois que la première réforme, c'est une réforme intérieure que chacun d'entre nous se recentre sur sa propre vocation, sur ce que le bon Dieu attend de nous, sur la charité, la foi et l'espérance, que ça nous donne à tous le désir d'être plus fidèles dans nos engagements respectifs. Voilà.
Alors, c'est en partie donc l'objet de ce livre. J'avais en tout cas lu le précédent, puisque je vous avais reçu pour en parler dans cette même émission. Livre dans lequel vous parlez un petit peu aussi de vous, hein, directement, quand vous parlez de la prêtrise, on y reviendra. Avec des choses très touchantes. Ce livre, donc, Donner sa vie, vous dites qu'il est né dans votre esprit et dans votre cœur à la suite de l'assassinat du père Hamel. C'est comme ça que vous connaissez votre livre, donc ce 26 juillet 2016, quelque chose dont on a beaucoup parlé, en tout cas ça a trouvé aussi un écho dans votre cœur et ça a motivé cet ouvrage avec ce titre « Donner sa vie ». Racontez-nous un peu la genèse de ce livre.
J'étais bouleversé, comme beaucoup d'entre nous, par le martyre du père Hamel, parce que j'ai cet événement a vraiment eu l'effet d'une claque pour ma vie spirituelle. J'ai repris conscience qu'être prêtre aujourd'hui en France, qu'être chrétien aujourd'hui en France, ça pouvait vouloir dire donner sa vie. Et on le savait de nos frères chrétiens d'Orient, mais c'est assez lointain. Là, tout d'un coup, c'était à une heure de Paris, un prêtre est mort parce qu'il était prêtre. Un prêtre a été assassiné parce qu'il était prêtre. Et d'ailleurs, je reviens à votre première question. 2016, c'est aussi l'année où éclate l'affaire Prénat, du nom de ce prêtre de Lyon accusé de crimes terribles. Et voyez, il y avait comme une figure, une autre figure de prêtre qui nous a été donnée à travers le Père Hamel. Une figure cette fois lumineuse. L'Église, c'est aussi ça, il ne faut jamais oublier. C'est le pire et le meilleur, comme toute famille. Mais j'ai été bouleversé par cette figure de prêtre qui est mort en servant, qui avait d'abord donné sa vie au quotidien, jour après jour, depuis 60 ans qu'il était prêtre, un prêtre dont on n'avait jamais entendu parler, qui avait servi humblement et quotidiennement. Et mystérieusement, mais réellement, ça préparait sans doute ce don total de sa vie le jour de son martyre, où il l'affronte consciemment, et parce qu'au fond, son cœur était déjà donné. Et dans le Père Hamel, il y a ces deux façons de donner sa vie. À la fois au quotidien, c'est la façon dont chacun d'entre nous est appelé à donner sa vie, dans la fidélité du quotidien. Et puis aussi, pour certains, de façon sanglante, le Père Hamel qui meurt martyr pour sa foi, mais c'est aussi le pompier, on en a parlé récemment, ces pompiers qui ont donné leur vie pour aller sauver. Quand une alerte retentit, ils partent et ils se donnent vraiment. Ou les militaires, nos militaires qui donnent leur vie pour notre pays. Vous voyez, c'est voilà, deux façons de donner sa vie et qui m'ont donné envie d'approfondir ce thème et de redécouvrir combien au cœur de toute vocation, il y a ce premier appel essentiel à donner sa vie.
Cette première question, donc, es-tu prêt à donner ta vie, pour qui et pourquoi? C'est le sous-titre, d'ailleurs, je crois, de votre livre. Donc, à vous entendre, c'est aussi une question que vous êtes reposée, en fait, à vous-même, hein, à frais nouveaux. Alors, au début de votre livre aussi, vous posez la question de la liberté. Alors, on se dit que c'est là le travail d'un prêtre, de nous interroger sur notre liberté, sur l'usage qu'on veut en faire. Mais plus profondément, ce que vous venez interroger, en tout cas, c'est comme ça que c'est ce que j'ai lu, c'est pas seulement la question de l'usage qu'on peut en faire, mais de savoir si on est libre ou pas. Est-ce une question qui est difficile, en fait, pour les jeunes, cette question de la liberté? Comment est-ce qu'on se la pose quand on a... Quand on est adolescent, est-ce qu'on peut vraiment en comprendre la profondeur, vous croyez?
En tout cas, je pense que c'est l'enjeu de l'éducation, y compris de nos adolescents, de les éduquer à cette vraie liberté intérieure. Le but n'est pas pour nous, adultes ou éducateurs, de choisir pour les jeunes qui nous sont confiés ce que doit être leur vocation, ou ce que c'est un projet entre un secret, un projet entre Dieu et eux, et qui nous dépasse. On n'en est que serviteurs. Mais pour qu'ils puissent le discerner, il faut que leur cœur soit disponible. Et je pense que c'est là la vraie question pour le discernement des vocations. Ce n'est pas tellement de vendre telle ou telle vocation, ce n'est pas tellement de les amener au mariage ou au séminaire ou au monastère. C'est d'abord et plus fondamentalement, plus radicalement, les aider à être libres pour être capables de discerner loyalement, librement, et de poser les choix qui seront les leurs, mais qui seront des choix durables parce qu'ils ont été vraiment libres.
Mais qu'est-ce que vous entendez par une vraie liberté? C'est quoi une vraie liberté pour un adolescent?
Eh bien, c'est de ne pas être prisonnier ni d'un manque de confiance en soi, ni d'un manque de confiance en Dieu, ni d'une peur de ce que Dieu pourrait me proposer parce que j'y verrais soit un sommet trop haut pour moi, soit quelque chose qui vient bousculer ma vie ou qui vient contrarier mes désirs profonds. C'est au fond derrière la question, est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu veut ton bonheur? Si oui, alors pourquoi aurais-tu peur de ce qu'il pourrait te demander? Parce que je vois souvent des jeunes qui peuvent...
C'est souvent l'obstacle en fait.
Mais oui, parce qu'on a peur, on a peur de cette radicalité de l'appel de Dieu, quel qu'il soit au fond. On a peur de ce que ça peut bousculer dans nos vies, on a peur de ce que Dieu pourrait nous demander, parce qu'on a l'impression qu'il va nous demander encore un peu plus que ce qu'on imagine. Mais... l'appel du Seigneur est toujours un appel au bonheur, est toujours un appel à la joie. C'est un appel qui peut être exigeant, c'est un appel qui peut être radical. Mais au fond, nous sommes faits pour ça. À 20 ans, j'espère que personne ne rêve d'une vie tranquille, mais d'une vie donnée. Se donner, c'est décapant, parce qu'il faut accepter de perdre, mais c'est le secret de la joie. Donc la disponibilité, c'est de dire qu'est-ce qui pourrait, justement, réfléchir, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de croire pleinement que tu es capable des désirs les plus profonds que tu portes, des désirs les plus hauts et les plus grands que tu portes. Ces désirs-là, c'est Dieu qui les a mis dans ton cœur. Donc Dieu ne va pas faire exprès de les contrarier. Tu portes les désirs profonds que tu portes, c'est ça la trace de ta vocation, de l'appel du Seigneur. Mais n'aie pas peur de côtoyer le Seigneur de près pour qu'il puisse te partager ce projet qu'il a pour toi. Et n'aie pas peur de ce projet, quel qu'il soit. Et moi, le but, vous voyez, d'un prêtre, ce n'est pas de recruter pour le séminaire ou pour le monastère ou de forcer au mariage. Le but, en tout cas, d'un éducateur et donc d'un prêtre, entre autres, ou des parents, eh bien, c'est de servir ce oui libre, ce discernement libre et ce oui libre. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur. Si on a peur, on n'est pas libre.
Alors, vous citez pour ça, évidemment, le pape Jean-Paul II, qui lui-même est cité par le pape Benoît XVI. Donc, Jean-Paul II, c'était ce fameux « N'ayez pas peur » le jour de son élection. Et le pape Benoît XVI, vous recitez ce passage qu'il lui avait adressé aux jeunes. Il me semble que c'était lors des...
Lors de sa première messe comme pape, je crois.
Première messe d'intronisation comme pape, le 24 avril 2005. « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout ». Avant qu'on fasse une première pause, je voulais vous laisser entendre que le préalable à la connaissance de la bonté de Dieu et donc de la possible réponse à rappel radical qu'il nous adresse, c'est d'aimer et de connaître Jésus et de nouer une amitié avec lui. Alors dans la bouche d'un prêtre, qui plus est, on va dire, d'un prêtre qui a l'habitude de s'adresser à la jeunesse, on comprend, mais... est-ce si simple de rencontrer Jésus quand on est jeune? Pour vous, ça a l'air de couler de source, voire de nouer une amitié profonde avec lui dans ses jeunes années. Ça paraît complètement lunaire aujourd'hui.
En tout cas, je vois que pour beaucoup autour de nous, la foi est quelque chose, soit est réduite à une morale, des choses à faire ou à pas faire, soit est réduite à une sorte de liste de choses un peu théoriques à croire, et beaucoup de jeunes, en fait, ne s'y retrouvent pas. Or, ils ont tous l'expérience de l'amitié. Et donc, s'il y a bien une phrase du Christ qui devrait leur parler, c'est celle que le Christ prononce ce soir du Jeudi Saint, quand il dit à ses apôtres « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Ça, vous voyez, on a l'expérience humaine de l'amitié. On sait ce que ça demande, une amitié, comme don de soi, comme générosité, comme oubli de soi pour servir l'autre, comme joie partagée. Et donc c'est une bonne nouvelle et finalement une belle façon de résumer cette proposition du Seigneur, de faire redécouvrir la puissance de cette phrase.
Mais est-ce si simple d'introduire des adolescents ou des jeunes à l'amitié avec
Jésus ? Eh bien moi je leur dis souvent, tout ce que tu fais pour tes amis, fais-le pour le Christ. Quand un ami t'appelle parce qu'il a besoin de toi, tu ne te poses pas la question de savoir si tu as envie ou pas envie. Tu y vas pour lui. Mais quand le Christ t'appelle chaque dimanche à la messe, ne te pose pas la question de savoir si tu as envie ou pas envie. Je comprendrais tout à fait que tu n'aies pas envie, mais fais-le pour lui. Si tu rentres dans cette logique de l'amitié, de la gratuité, du don dans ta foi, en fait, tu vas te décentrer de toi-même et tu vas trouver ta joie parce que tu vas te donner. Et c'est ça qui va faire que peu à peu, cette amitié devient concrète. Et tu vas découvrir concrètement la présence de Dieu. Parce qu'évidemment, il saura répondre. Voyez ? Mais c'est comme n'importe quelle amitié humaine. Si tu ne la vis pas dans la forme du don, ben ça va, l'amitié va s'estomper peu à peu.
Et vous êtes témoin de jeunes qui développent dans leurs jeunes années donc une vraie amitié
bien
avec
sûr.
Le Christ ?
Bien sûr.
Vous avez une histoire comme ça qui vous revient en tête ?
Ah, mais moi, je passe mon temps à être émerveillé de voir justement de voir des jeunes qui font preuve d'une générosité, au cœur même parfois de leur fragilité, une vraie générosité vis-à-vis du Seigneur, et qui se mettent à prier, et qui tiennent, et qui ont un désir de témoigner, un désir d'évangéliser. Vous savez, nos jeunes aujourd'hui, les jeunes chrétiens, ils sont souvent dans des situations où ils sont très minoritaires, dans leur classe ou dans leur groupe d'amis, et je suis ébloui, je suis profondément émerveillé de voir la générosité de nos jeunes chrétiens aujourd'hui. On est vraiment là pour les encourager, parce que c'est pas facile. Et en même temps, on voit bien que c'est d'une amitié personnelle vécue avec le Christ qu'il tire cette générosité et ce courage d'assumer et d'annoncer ce qu'il croit.
Pierre-Hervé Grosjean, le titre de votre dernier livre, Donner sa vie, avec ce sous-titre Pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie ? Question que vous adressez à tout le monde, mais particulièrement aux jeunes. Ouvrage paru aux éditions Arthège. On fait une première pause et on vous retrouve dans quelques minutes.
présence.
Vivante Église. Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin donc avec Pierre-Hervé Grosjean, auteur, pour rappel, pour ceux qui nous prendront en cours de route, c'est d'un ouvrage intitulé « Donner sa vie » paru aux éditions Arthège, donc émission sous le titre « Le dernier livre de l'abbé Hervé Pierre-Hervé Grosjean ». Ce livre donc qui est une invitation radicale au don de soi. Et vous nous disiez dans cette première partie d'émission que les jeunes sont d'une grande générosité et qui souvent ils se laissent entraîner par cet appel. Alors vous, la deuxième partie de votre ouvrage, c'est tout simplement vous parler un peu des trois grandes vocations. Je dis ça parce que vous avez un mot aussi pour le célibat subi. On en parlera peut-être un petit peu plus loin dans l'émission. Vous commencez par parler du mariage. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai relevé quelques points sur lesquels je voulais vous faire réagir. Vous dites d'abord votre grande admiration. Alors, il n'y a pas grande, mais on le sent entre les lignes, pour les couples, et ce, pour différents motifs. Qu'est-ce que vous nous diriez sur ce sujet? Qu'est-ce qui vous frappe le plus et qui, pour vous, rend admirable cette vocation?
Oui, souvent, on entend des chrétiens nous dire « Vous êtes prêtre, quel sacrifice, que c'est beau, bravo, que de courage aujourd'hui, etc. etc. » Et ça fait toujours plaisir, on a besoin d'être encouragé, je vous le confirme. Mais je dis souvent « Mais j'ai autant de courage !» J'ai le même émerveillement devant toute vocation, devant toute personne qui se donne, devant toute vie donnée. Et donc en particulier, puisqu'on parle du mariage, devant la vie des couples et des familles. Aujourd'hui, fonder une famille, faire le choix de fonder une famille chrétienne, vivre en chrétien, cette vocation conjugale et familiale, dans ce monde qui est le nôtre, c'est décapant. C'est un vrai choix de courage et de don de soi.
Alors pourquoi, pour ceux qui nous écouteraient qui
Eh bien parce que c'est un vrai don de sa vie. C'est-à-dire que quand vous vous mariez, vous ne vous appartenez plus, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vous donnez, vous consacrez votre vie au bonheur et à la sainteté de votre époux, votre épouse ou de vos enfants. Et vous décidez que votre vie ne pourra pas trouver sa joie sans qu'ils trouvent eux leur joie. Et donc vous acceptez en quelque sorte de perdre d'ailleurs cette autonomie et cette liberté du célibataire qui peut être parfois confortable pour tout donner, pour vous mettre au service d'eux. Donc c'est vraiment une façon de donner sa vie au service. Et d'ailleurs, souvent les difficultés dans un couple arrivent quand on se reprend un petit peu. C'est-à-dire qu'on commence à compter ce qu'on donne, quand on commence à calculer le temps qu'on offre, quand on commence à vérifier qu'on ne se fait pas avoir parce qu'on céderait plus que l'autre, etc. Vous voyez, c'est comme ça que les disputes arrivent. Alors qu'il n'y a pas d'autre choix que de donner et de donner sans, voilà, au service de la joie de l'autre. Et donc c'est pour moi une vraie vocation au don de soi.
Est-ce que vous avez des exemples, c'est pareil, qui vous reviennent en tête, des visages? On imagine qu'il y en a beaucoup, mais vous citez par exemple ceux qui continuent à vivre la fidélité à leur engagement malgré une séparation et les souffrances, je vous cite, ou ceux qui se donnent inlassablement au service de leurs enfants. Donnez-nous l'une ou l'autre histoire qui vous a marqué dans votre vie de prêtre.
Mais moi, j'ai eu la grâce, la première grâce que j'ai eue, c'est d'avoir des parents qui sont toujours vivants et qui sont... 45 ans de mariage font mon admiration, voyez, parce qu'ils m'ont appris justement la beauté qu'il y a à apprendre à aimer l'autre au cœur même de ses pauvretés et de ses limites. Je n'idéalise pas mes parents. D'ailleurs, la désidéalisation des parents arrive assez tôt, en fait. Hein. Je suis un jeune, mais justement, ils m'ont appris que c'était pas réservé à des gens parfaits. Voyez, et je les ai vus prier ensemble, avoir besoin de prier ensemble. Je les ai vus avoir besoin de se faire des petits week-ends amoureux pour raviver la flamme. Je les ai vus avoir besoin de se demander pardon et de se pardonner. Je les ai vus manifester leur tendresse l'un pour l'autre. Et donc, dans les différentes étapes de leur vie, ils m'ont donné un exemple, non pas parfait, mais justement, c'est ça qui me parle, c'est que moi non plus, je ne suis pas parfait. Un exemple de fidélité, de pardon et de dans les joies et les épreuves qu'ils ont pu avoir et qu'ils continuent d'avoir. Ça, c'est le premier exemple qui marque et qui a marqué profondément mon cœur d'adolescent. Et puis j'ai l'exemple aussi de ceux que j'ai pu marier, de jeunes que j'ai pu préparer au mariage, de voir le chemin parcouru et le courage ou la générosité qu'il y a aujourd'hui à dire j'engage ma vie sur la parole d'un autre. Et je donne ma vie ainsi. Je vois aussi les familles que j'ai pu accompagner en paroisse, à travers les joies et parfois les drames qu'elles peuvent connaître. Et de voir là aussi des trésors d'abnégation, de générosité, de fidélité, d'espérance, dans des situations de maladie, dans des situations d'épreuve, de séparation, d'inquiétude pour les enfants, etc. Et souvent, les parents me le disent en disant « si on avait su ça au moment de se marier », on n'aurait peut-être pas osé se marier, quoi. On se serait dit, on n'en sera pas capable. Et puis, on découvre que le bon Dieu nous a rendus capables de traverser quand même pas mal de choses, des joies et des peines. Et voilà. Et j'ai aussi été très marqué, pour finir, au soir d'une vie, de voir des vieux époux, la tendresse de... On sent qu'il y a toute une vie à la fois d'amour, de pardon, de blessure, de réconciliation. Et de voir la tendresse entre des vieux époux, je trouve ça très beau, de voir comment l'un accompagne l'autre au moment de partir vers le bon Dieu, de voir, de voir combien des veufs ou des veuves attendent avec impatience le jour où ils vont retrouver leur époux, leur épouse déjà partie au ciel. Voilà, c'est des choses qui parlent pour elles-mêmes, qui valent toutes les homélies.
Voilà, c'est un hymne au mariage, en tout cas, que vous nous faites là. Il y aurait eu d'autres choses, je le dis, pour mettre en bouche les auditeurs et pour qu'ils aillent plus loin et qu'ils aient envie de vous lire. Vous parlez d'une vision parfois trop romantique que l'on a de l'amour. Là aussi, certains peuvent dire que c'est vous enfoncez des portes ouvertes, mais en même temps, vu l'expérience que vous avez de la jeunesse, on se dit qu'il est bon de le dire et le re-redire. Vous parlez aussi de la chasteté. Dieu sait si c'est un sujet qui est délicat pour les jeunes, y compris parfois dans le mariage. Mais je vois le temps qui passe et j'aimerais qu'on parle donc du sacerdoce, cette autre grande vocation. Là, vous parlez un petit peu de vous, on y reviendra après. Je ne sais pas si vous accepterez de répondre à la question, parce qu'il me semble que vous l'abordez de manière assez elliptique. Vous dites que la vocation, c'est toujours la réponse à un appel, que cette vocation n'est pas naturelle. Et cet appel, c'est « viens, suis-moi ». Vous, votre appel, vous en avez déjà parlé ou c'est secret défense et
non,
vous
ne
pouvez pas en parler à l'antenne?
En tout cas, moi, j'ai pas eu de phénomène mystique, je sais pas quoi, ou d'apparition. Vous voyez, c'est un appel qui a émergé tout doucement dans mon cœur de jeune, et qui est passé surtout par la figure de prêtres qui m'ont marqué. Je crois beaucoup à la grâce des rencontres, et pour moi, ça s'est passé par la grâce de rencontrer sur mon chemin des prêtres, des belles figures de prêtres. Et il faut le redire aujourd'hui, la vie d'un prêtre. Qui, avec sa pauvreté, essaie d'être fidèle à sa vocation, c'est une vie qui est belle et qui témoigne de Dieu, qui témoigne de cette bienveillance de Dieu. Et moi, j'ai eu la chance de tomber, de croiser la route vraiment de prêtres qui ont été des vrais serviteurs et qui m'ont appris la joie qu'il y avait à se donner, qui m'ont appris la joie de croire, de servir. Et à leur contact, assez naturellement, la question est venue « pourquoi pas toi ?» Et puis cette question a mûri tout doucement, tranquillement, assez vite quand même, parce que je suis entré jeune au séminaire, mais voilà, c'est devenu une certitude assez vite.
Voilà, vous dites d'ailleurs que dans un jeune séminariste un jour est venu vers vous, jeune prêtre, et que il vous a remercié et que vous étiez surpris du fait qu'il vous remercie et vous a expliqué que c'est justement il avait vu que vous étiez entre guillemets un bon prêtre, alors qu'au-delà de toutes vos limites et de vos misères, et ça vous avait fait bien sourire.
Oui, c'est important ça, parce que vous voyez, ce garçon-là qui est prêtre maintenant me disait en te voyant, j'avais été son aumônier scout à un moment donné, il m'a dit en te voyant vivre à nos côtés pendant quelques jours en camp scout, j'ai compris qu'on n'avait pas besoin d'être parfait pour être prêtre. Donc c'était amusant. Mais c'est vrai aussi. Trop souvent, on pense que c'est réservé à une élite. Trop souvent, on pense, les jeunes eux-mêmes pensent d'ailleurs, que le futur curé parmi eux, c'est vraiment celui qui est déjà un peu mystique, qui est déjà un peu, qui n'a aucun mal pour prier, qui ne fait pas de péché, qui ne sais pas quoi. Mais non, la bonne nouvelle, c'est que Dieu aime faire de grandes choses à travers les pauvres que nous sommes. Et moi, j'aime, c'est vrai pour toute vocation au fond, mais j'aime donner cette image de Dieu qui, comme un artisan, travaille l'argile, la glaise que nous sommes. Et c'est pas parfait au départ, mais il faudra du temps justement pour former le cœur d'un prêtre. C'est pour, et le Seigneur nous travaille. Vous voyez, on n'attend pas d'être parfait pour être appelé. Et il aime, justement, l'Évangile nous le dit avec les apôtres, il aime appeler des pauvres, des garçons, des filles qui ont leurs limites, qui ont leur générosité aussi. Parce que du coup, le bien qui sera fait dans ces vies consacrées, on saura que ça vient de Dieu, voyez, à travers l'humanité fragile et parfois blessée, mais qui se laisse façonner par le bon Dieu. Voilà. Ce n'est pas réservé ni aux gens bizarres, ni aux gens parfaits, au contraire.
Vu les circonstances, je trouve qu'il peut être, riche pour nos auditeurs. J'espère que beaucoup liront votre livre, mais peut-être pas tous, que l'on partage l'une ou l'autre des confidences que vous faites à propos donc, de la prêtrise. Vous dites aussi que, comme d'autres chemins, être prêtre, c'est parfois un chemin bien rude. Vous laissez entendre, par exemple, un moment que voilà, il vous est arrivé de pleurer de tristesse devant le chemin pris par certains jeunes que vous aviez accompagnés pendant quelques temps. Mais j'aimerais que vous nous parliez un peu de la solitude. Vous parlez de cette solitude du prêtre, vous dites que parfois elle peut faire douloureusement souffrir. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec les auditeurs sur ce point ?
Je crois que le célibat ecclésiastique, le célibat à laquelle l'Église nous appelle, est un choix qui est un vrai renoncement. Parce que la vocation naturelle, c'était le mariage, inscrit dans notre nature humaine, c'est le mariage. Mais, donc il y a un vrai renoncement à l'appel surnaturel du bon Dieu. Il y a un vrai renoncement qui est décapant, qui est éprouvant, qu'il ne faut pas spiritualiser trop vite. Et c'est un renoncement dont on va percevoir le poids au fur et à mesure. Moi, c'est quand mon petit frère a eu son premier fils, son premier enfant, que j'ai compris dans ma chair ce que ça voulait dire pour moi de ne jamais donner la vie de la même façon. Donc ce renoncement que j'avais généreusement offert, je le vis maintenant peu à peu, vraiment. J'en prends conscience chaque jour. Et en même temps, ce renoncement, il est possible parce qu'il est au service d'une autre façon d'aimer. Cette solitude que nous éprouvons, évidemment, puisque rien ne remplace une épouse, voyez. Eh bien, en même temps, cette absence, parce que nous y consentons librement et parce que nous l'offrons au service d'une mission et en répondant à un appel du Seigneur, eh bien, n'est pas une frustration amère, mais c'est l'offrande généreuse, joyeuse aussi, au service d'une mission qui nous comble. Et ça, je crois qu'il faut tenir les deux. Et à la fois le côté exigeant de ce renoncement, et en même temps la possibilité, parce que c'est au service d'un autre amour.
Alors j'ai noté une phrase, vous dites aussi la chose suivante, vous dites qu'on souffre forcément de blessures reçues de ceux qu'on aime. Alors la phrase comme ça sortie de son contexte peut paraître un peu trop simple, mais ce que vous avez cette citation quand vous parlez un peu de votre épouse, quelque part, qui est l'Église, hein, puisque à la suite du Christ, si j'ai bien compris, vous épousez d'une certaine manière l'Église. Parlez-nous de ces blessures que l'on reçoit. On se donne généreusement et parfois on a une épouse bien ingrate, vous diriez ou...
Non, l'Église, elle est sainte, donc elle, ça va. Par contre, elle est composée de pécheurs, vous et moi. Et c'est vrai que on a tous un besoin de reconnaissance immense. Et Dieu sait combien un époux pourrait dire combien il est sensible au regard de son épouse, aux compliments de son épouse, aux encouragements de son épouse. Et inversement, pour l'épouse par rapport à son époux. Nous, on n'a pas de conjoint. Et donc, c'est vrai que ces encouragements, cette reconnaissance, on a besoin de la recevoir à la fois de la communauté qu'on sert et puis de nos évêques, qui sont nos vrais pères dans la foi. Et parce qu'un fils a besoin de l'encouragement de son père pour grandir. Et donc, c'est vrai que dans l'Église, parfois, on a cette pudeur qui nous empêche de nous encourager mutuellement les uns les autres dans nos vocations respectives. Moi, les familles sont très touchantes quand elles me disent que la présence d'un prêtre, la proximité d'un prêtre, les aide, les encourage dans les heures faciles ou difficiles de leur existence. Et inversement, combien pour un prêtre c'est précieux de pouvoir compter sur l'amitié, les encouragements, la bienveillance des fidèles qui peuvent profiter de ses services, mais combien on sent que on est sensible, on est encouragé justement par la foi des gens, parce que c'est au fond c'est les fidèles qui nous rappellent au service de quoi on a donné notre vie. Vous voyez, la raison d'être du célibat, C'est ceux auxquels je suis envoyé, c'est pour eux que j'offre ma vie. Et donc, leur regard, leur joie exprimée, leur reconnaissance me porte, m'encourage. C'est pour ça qu'un prêtre, il trouve sa joie dans le peuple qui lui est confié, et pas ailleurs. Et d'ailleurs, son célibat commence à être lourd à porter quand il ne trouve plus sa joie dans son ministère de prêtre. Voyez ? De même qu'il a besoin d'entendre son évêque l'encourager comme un père encourage son fils. Et parfois, on ne sait pas toujours dire les choses. Ce n'est pas qu'on ne s'aime pas, il y a une vraie charité dans l'Église, mais on ne sait pas toujours l'exprimer, la dire, parce que...
Et puis entre hommes, c'est peut-être encore plus délicat.
Oui, parce qu'il y a une forme de pudeur qui fait qu'on n'a pas appris à exprimer nos sentiments. Donc je crois qu'on a aujourd'hui, en tout cas, plus que jamais, on a besoin de ces encouragements mutuels. Et en ce sens-là, vous voyez, je crois beaucoup à la complémentarité des vocations. Parce que nous sommes au service de la fidélité les uns des autres. Ça, je le crois profondément. Voilà. Et encore une fois, si le cœur du prêtre n'est pas verrouillé, on n'est pas empêché d'aimer par l'Église. Au contraire, on aime à la façon du Christ, qui était lui aussi célibataire, mais qui a trouvé sa joie dans le compagnonnage d'un Saint Jean, dans la bienveillance de la Vierge Marie, la façon dont certains, la Samaritaine ou d'autres, ont pu écouter ce qu'il disait, etc. Vous voyez, c'est notre ministère de prêtre, notre service, qui est le lieu de notre joie et en même temps de l'accomplissement de notre vie.
Alors, pardon pour les religieux et les religieuses qui nous écoutent, on va faire plus court pour cette vocation. Vous laissez entendre dans votre propos introductif à propos de la vie religieuse, que, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, qu'on touche du doigt quelque part vraiment le mystère peut-être de toute vocation dans le fond. Voilà, cette vie souvent cachée, extrêmement simple. On pense à fortiori pour ceux qui n'ont pas de vie apostolique. Hein, ils ne verront la fécondité de leur vie qu'au ciel, a-t-on l'habitude de dire, et c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager sur la vie religieuse ?
Je suis profondément émerveillé, touché, reconnaissant par rapport à ces hommes et ces femmes qui ont offert leur vie soit pour être au chevet du monde, en le servant dans ses plus pauvres ou les plus fragiles ou les plus jeunes, soit en étant aux avant-postes du combat spirituel, un peu comme des sentinelles ou des veilleurs qui portent le monde dans leur prière, sans voir le fruit de leur prière, ils le verront qu'au ciel, effectivement. Et donc il y a une sorte de générosité absolue, de gratuité totale. Qui va remercier le moine qui est dans sa grande chartreuse et qui est dans le silence et la prière ? Personne. Et pourtant, on lui doit tout. Moi, je suis sûr qu'on sera bluffé, quand on arrivera là-haut, de voir la fécondité de ces vies cachées. De même, je vous disais un mot, on dira peut-être un mot sur le célibat non choisi, mais toutes ces vies, vous voyez, qui, pour X raisons, sont aux yeux du monde parfois considérées comme diminuées ou comme pas tout à fait accomplies.
Voire un peu folles.
Voilà. En fait, parce qu'elles sont données, elles portent du fruit. Toute vie a une fécondité dès lors qu'elle est donnée d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de vie inutile, il n'y a pas de vie ratée, il n'y a pas de vie qui se retrouve dans une impasse à cause d'un échec conjugal ou affectif ou spirituel ou autre. Il n'y a pas de vie trop blessée pour ne plus pouvoir porter de fécondité. Toute vie, dès lors qu'on essaye d'aimer à la façon du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, toute vie peut trouver sa fécondité et donc sa joie.
Donner sa vie, c'est donc le titre de votre dernier livre, Pierre-Hervé Grosjean, paru aux éditions Arthège. On fait une courte pause et on vous retrouve pour parler entre autres donc du célibat non choisi. Vous l'abordez dans votre livre, c'est une réalité de plus en plus importante, y compris dans l'Église. Il est bon d'en parler. Puis on parlera aussi d'un certain père, comment prononcez-vous son nom ? L'abbé Hiverna. L'abbé Hiverna. Vous donnez son testament spirituel à la fin de votre ouvrage et on sent que c'est un homme qui a compté pour vous, qui est décédé jeune, hein, à l'âge
34
de
ans.
34 ans. On vous retrouve dans quelques instants.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, donc l'abbé Grosjean et son dernier ouvrage « Donner sa vie » paru aux éditions Artege. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est donc l'invité de cette émission Vivante Église ce matin. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, l'abbé Pierre-Hervé Grosjean est prêtre du diocèse de Versailles, curé de la paroisse de Saint-Cyr-l'École, un des animateurs du Padre Blog, et donc auteur, entre autres, de ce livre « Donner sa vie » paru aux éditions Artege. J'aimerais, en cette fin d'émission, revenir sur le début de votre livre. Vous disiez que cet ouvrage, qui est un vibrant appel lancé particulièrement à la jeunesse à donner sa vie, et ce de manière radicale, avait été motivé par la mort du père Jacques Hamel, par son assassinat, je rappelle, le 26 juillet 2016. On a beaucoup parlé à l'occasion de la mort du père Jacques Hamel, et puis de ce don radical. Quand vous en parlez avec les jeunes, j'imagine que ça les fait trembler quand même, d'imaginer de donner sa vie jusqu'au bout et comme ça. Et pourtant, vous y voyez, à vous entendre, quelque part, que cette prise de conscience est importante. Il faut savoir être prêt à aller jusque-là.
C'est Saint-Exupéry qui disait « Ce pourquoi tu es prêt à mourir, seul cela peut te faire vivre ». Un jeune qui se pose la question « À quoi va-t-il engager sa vie ?» Pour qui, pourquoi veut-il donner sa vie? C'est intéressant, c'est la question centrale même. Qu'est-ce qui, à mes yeux, mérite que je donne ma vie? Regardez combien on a été tous émus et marqués par le geste du colonel Beltram. Même ceux qui ne connaissent pas grand-chose dans les questions de sécurité, etc., ont trouvé le geste magnifique et bouleversant. L'idée qu'il puisse prendre la place d'un otage, d'une otage. Voyez, et que tout d'un coup il engage sa vie, qu'il ait cette audace-là, cette capacité à mettre sa vie en jeu pour sauver celle d'un autre. Ou regardez combien on est à chaque fois ému quand on entend le sacrifice de nos soldats ou de nos pompiers ou qui pour sauver des vies rentrent dans une maison en feu. Voyez, qu'est-ce qui met, et pourtant ils ont pas 20 ans souvent. Voyez. Donc il y a cet élan instinctif dans notre cœur qui nous fait croire, qui nous fait penser qu'il y a du sens à donner sa vie pour en sauver d'autres. Il y a du sens à mettre sa vie au service de plus grand que soi. Que notre vie est un don, même des non-croyants ont cette intuition-là, que la vie nous est donnée. Et qu'elle nous est donnée pour, pas pour qu'on la vive centrée sur son nombril, mais pour qu'on la redonne d'une façon ou d'une autre. Et je crois que c'est ça qu'il faut éveiller, parce que je pense que c'est quelque chose qui est là vraiment dans le cœur, présent dans le cœur de beaucoup de jeunes, cette générosité instinctive. Et ils le disent d'ailleurs souvent, l'expérience qu'ils font de vraie joie coïncide souvent avec des expériences de service ou de générosité qu'ils ont pu connaître vis-à-vis de leurs amis, ou même dans des projets humanitaires qu'ils ont pu porter, ou dans des services des plus jeunes ou des plus fragiles.
Vous citez dans votre propos conclusif un certain Henri Delincourt. Delincourt, j'ai rêvé d'une grande vie, mon erreur était de la vouloir grande pour moi, elle sera grande si je la donne, si je vous la donne, si pour que vous en fassiez ce qu'elle doit être. Est-ce que vous pouvez commenter cela? Y a-t-il quelque chose d'autre à dire? Vous invitez à rêver et à rêver de grande vie.
Cette prière, c'est une prière qu'on a retrouvée dans les papiers de ce jeune chef scout, Henri Delincourt, qui est mort en 1940, à 24 ans. L'enjeu n'est pas de brider l'ambition d'un jeune. Il faut rêver d'une grande vie. C'est le pape François qui disait « Vous n'êtes pas fait pour une existence médiocre ». Ou Pierre Geoffroy Satie, que le pape François reprenait, qui disait « Il ne s'agit pas de vivoter, il s'agit de vivre pleinement ». On peut vouloir faire de sa vie quelque chose de grand, de beau. Et encore une fois, à 20 ans ou à 15 ans, j'espère qu'on aspire à quelque chose de grand et de beau. Il ne faut juste pas se tromper sur ce qui est grand. Ce qui est grand, ce n'est pas de réussir pour soi. Ce qui sera vraiment grand, c'est justement de trouver d'offrir à sa vie une fécondité dans le don, parce qu'on l'aura donné. Encore une fois, on peut avoir accumulé beaucoup de richesses, beaucoup de pouvoir, mais avoir une vie creuse, et s'en apercevoir d'ailleurs à la fin de sa vie, c'est violent. Parce que parce que rien ne portera du fruit, parce qu'on n'a pas donné, parce qu'on n'a pas, parce qu'on a accepté de rien perdre, voyez. Et au contraire, on peut, avec pas beaucoup, mais avoir un rayonnement qui nous dépasse parce qu'on s'est donné. Donc, je crois, oui, qu'il faut encourager ça, stimuler ça, éveiller ça, ce désir du don, cette joie du don, dès le plus jeune âge, parce que c'est dans les petits « oui » du quotidien qu'on prépare déjà les grands « oui » de notre vie.
Vous avez cette phrase « ce qui est grand, c'est de consentir à mourir s'il le fallait afin que d'autres vivent ». J'aimerais que vous nous parliez un petit peu du célibat non choisi. C'est un sujet très important dans notre société, y compris dans l'Église, qui est rarement abordé. Alors, ce n'est pas l'objet de votre livre, mais enfin, vous ne faites pas l'impasse. Et on vous en remercie. Vous citez quelques personnes qui, pour vous, sont des exemples sur ce sujet. Votre marraine, votre petite sœur Pascale, qui est handicapée physique, dont vous aviez parlé aussi dans vos précédents ouvrages. J'avais une question. On a compris que toute vie donnée, donc y compris quand on vit un célibat non choisi, est une vie féconde. Mais est-ce que vous diriez que les célibataires qui vivent ce célibat, on va dire, malgré eux, ils ont quelque chose de particulier à dire dans l'Église, et si oui, quoi?
D'abord, il faudrait ne pas les oublier. Et je reconnais moi-même que dans ma paroisse, par exemple, il y a des choses qui sont proposées aux couples, il y a des choses qui sont proposées aux jeunes, il y a des choses qui sont proposées aux familles. Mais parfois, il y a une sorte de silence qui se fait sur les propositions pour ceux qui vivent, qui n'ont pas forcément une vocation consacrée, sans pour autant avoir pu se marier pour X raisons.
Mais est-ce que c'est justement parce qu'on ne voit pas d'abord ce qu'ils ont à apporter?
Alors, déjà, ils font partie du peuple de Dieu. Donc, il faudrait reconnaître cette existence. En région parisienne, c'est une vraie proportion. Je ne sais pas pour la France, mais c'est, à Paris, c'est... Voilà, et dans nos familles, enfin dans ma famille, c'est une réalité. Et puis, effectivement, je crois que, en tout cas, le service, ou le sens de notre vocation, pour moi, de l'Église, comme prêtre, c'est de donner à chacun l'occasion de se donner. Vous voyez, je permets aux uns et aux autres de s'accomplir en leur donnant l'occasion de se donner. Et donc, oui, il faut redire que pour l'Église et pour ce monde, toute vie a quelque chose à apporter. Toute vie est une mission. Et sans doute que là...
Mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question, si je peux me permettre. C'est-à-dire que...
Je creuse ma réponse. mais je... Je ne sais pas si c'est une réponse générale, mais en tout cas, je crois que cette disponibilité du cœur... Vous voyez, en fait, ce manque, qui est d'abord vécu comme un manque, il faut le transformer en disponibilité. Et une capacité, du coup, d'ouverture du cœur à tous. Et en ce sens-là, il y a quelque chose à donner, à apporter. Comment ce vide se retourne, ne s'enferme pas dans une sorte d'amertume et d'isolement, mais se retourne comme une disponibilité, une offrande aux autres. Et c'est l'exemple que je donne à ma marraine qui a apporté à la société et à l'Église et à ceux qu'elle a servi comme médecin, vous voyez, sans doute une disponibilité plus grande, parce que son cœur n'était pas pris. Donc il y avait beaucoup d'amour à donner, une capacité d'aimer qu'elle n'a pas enfermée, qu'elle n'a pas enterrée, justement, mais qu'elle a mise au service, non pas d'enfants qui seraient les siens, non pas d'une famille qui serait la sienne, mais de tous ces plus fragiles qu'elle a pu rencontrer, d'un village qu'elle a pu faire revivre, et peut-être qu'elle n'aurait pas pu faire ça si elle avait eu effectivement une famille à s'occuper, ça c'est sûr, voyez.
Pour finir, parlez-nous de cette figure qui vous a inspiré. Il me semble que vous dédiez votre ouvrage en partie à cet homme, si je ne me trompe pas. En tout cas, vous le citez à la fin, l'abbé Hiverna, donc décédé en montagne le 28 août 1991. Il avait, rappelez-moi,
34 ans,
prêtre du diocèse de Versailles, diocèse dans lequel vous êtes incardiné. Pourquoi est-ce que cette figure vous a marqué et qui était-il d'abord?
L'abbé Hiverna, c'était Jean-Paul Hiverna, c'était un prêtre qui était vicaire à la cathédrale de Versailles après son ordination pendant 8 ans et qui est mort en montagne au retour des JMJ de Częstochowa en 91. Donc, il part en montagne avec un groupe de jeunes. C'était vraiment un prêtre qui avait un très beau rayonnement auprès de la jeunesse. Et il part en montagne à quelques jeunes et un rocher se détache sur lui. Il va mourir au milieu de ces jeunes en quelques instants. Et on va découvrir à ce moment-là justement le rayonnement immense, impressionnant qu'il a eu sur toute une génération qui a pu le connaître et sur des générations qui viennent. Parce que moi, je ne l'ai pas rencontré. J'ai dû le croiser une fois, mais j'étais tout petit, donc je n'en ai pas vraiment profité. Mais j'ai 14 ans quand il meurt. Et je me souviens très bien de ce moment-là. Maman me donne un exemplaire de son testament spirituel que j'ai mis dans ce livre, qui a été paru dans une revue chrétienne. Il me dit, tiens, tu devrais lire ça. C'est un testament spirituel qu'on a retrouvé dans ses affaires, qu'il avait écrit quelques années auparavant, comme s'il avait l'intuition qu'il pourrait mourir jeune. Et moi, du haut de mes 14 ans, je lis ce testament spirituel et ça me fait l'effet d'une révélation.
Si ça ne vous embête pas, je voudrais juste citer au moins le début, parce que je trouve que... Il est remarquable. Je demande pardon à tous ceux que j'aurais pu blesser ou scandaliser durant ma vie terrestre. Pardon à tous ceux qui auraient vu dans ma vie sacerdotale un contre-témoignage. Le sacerdoce est une réalité si belle qu'on ne peut que la trahir. Voilà. Alors il dit ensuite qu'il aurait voulu être un saint. Et puis il invite les jeunes à voir grand, à être assoiffés d'absolu, de pureté, de transparence, de joie et de sainteté. Rien que ça.
Et il dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il dit qu'un autre prenne le relais, monte à l'autel et soit un saint. Et ça, c'était, je pense, la phrase qui a profondément touché mon cœur d'adolescent. Sans doute que cet autre, je me suis dit que ça pouvait aussi englober moi-même, qu'un autre prenne le relais, monte à l'autel, soit un saint. C'était étonnant de voir voilà, ce prêtre qui avait l'intuition, sans doute, qui avait peut-être le pressentiment qu'il ne pourrait pas aller plus loin, enfin, qu'il allait arrêter son pèlerinage tôt et qu'il espérait que. Enfin, c'était un appel que d'autres prennent le relais. Ce qui m'a beaucoup ému, c'est que j'ai été nommé. Moi, comme ma première poste de prêtre, c'était vicaire à la cathédrale Saint-Louis. J'ai habité dans son appartement, comme si ce relais se faisait, même si je ne me sens pas du tout à la hauteur de l'exemple qu'il nous a donné. Mais c'est un texte qui a marqué beaucoup de vie. Et j'étais heureux de... qui a marqué ma vocation de prêtre, ça c'est évident, et de l'offrir parce que c'est... Là aussi, voilà des vies trop courtes à nos yeux. C'est mystérieux, on manque de prêtres et voilà un jeune prêtre qui meurt à 34 ans. On pourrait se dire, mais c'est injuste, c'est absurde, qu'est-ce que fait le bon Dieu ? Eh bien, la fécondité de cette vie, bien des années après sa mort, montre que, voyez, lui aussi, je crois, passe son ciel à faire du bien sur la terre.
Alors, je vois qu'il nous reste quand même quelques minutes. Je voulais vous relancer sur cette question parce que c'est, on va dire, ça fait partie de votre charisme, comme on dit dans le jargon, d'exhorter la jeunesse à voir grand. Ça a été un peu le fil rouge de cette émission. Pour ce dernier livre, je rappelle le titre une dernière fois de ce livre, « Donner sa vie » paru aux éditions Artege. Je voudrais reciter ce passage que j'ai cité, donc de cet abbé Jean-Paul Hiverna, « Que les jeunes et parmi eux tous nos scouts et guides soient assoiffés d'absolu, de pureté, de transparence, de joie et de sainteté. C'est la grâce de la jeunesse de voir grand. Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui ne sont plus jeunes et qui écoute cette émission, faut-il vivre en étant vraiment assoiffé d'absolu ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se calmer ?
Non, il faut garder un cœur jeune, il faut garder un cœur embrasé, il faut garder un cœur... Il faudrait, tout en mûrissant, il ne s'agit pas de régresser ou de s'infantiliser, mais tout en mûrissant, tout en essayant d'acquérir cette sagesse qui vient avec l'âge, garder un cœur d'enfant, un cœur d'adolescent même, un cœur qui est capable encore de vibrer, un cœur de... Qui ne s'enfonce pas dans la tiédeur ou dans l'habitude. Moi, je dis souvent, quand je célèbre un mariage, que c'est la grâce que je souhaite aux mariés. Je leur dis, mais gardez ce cœur de fiancé, devenez époux, devenez parent. Mais gardez un cœur de fiancé, c'est-à-dire un cœur capable de s'émerveiller devant l'autre.
Un cœur qui
n'est pas habitué. Le grand danger dans la vie spirituelle, surtout pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ce n'est pas les péchés qu'on peut faire, parce que ça, le bon Dieu sait les pardonner. C'est l'habitude.
Est-ce qu'il y a un secret de la vie spirituelle pour garder cette jeunesse, hormis être en contact avec la jeunesse ?
Être ami de Jésus, parce que Jésus, c'est l'éternelle jeunesse, nous la recevons du Christ, c'est lui qui nous renouvelle sans cesse. Regardez, on le voit d'ailleurs, un Jean-Paul II, même au sort de sa vie, on le sentait au contact des jeunes, il vibrait avec eux, il n'était pas blasé, il n'était pas habitué, il était encore capable de rire avec nous, de nous encourager, de parler. C'était étonnant comment ce vieil homme, ce vieillard, ce vieux pape était capable de parler à toute une jeunesse parce qu'il les connaissait, parce qu'il les aimait, parce que nous nous sentions à la fois aimés et en même temps encouragés. Oui, c'est le secret de Jean-Paul II, comme de François aujourd'hui, comme de Benoît avant. C'était, en fait, quand ils parlent aux jeunes, ils ne jouent pas aux jeunes. Mais ils ne jouent pas aux copains. Mais ils osent proposer quelque chose de grand à la jeunesse. Ils osent proposer une belle ambition, une noble ambition, l'ambition de servir, l'ambition de donner sa vie, le grand désir de servir. Et en même temps, ils savent nous encourager. Vous voyez, il y a cette miséricorde et exigence en même temps. Et ce qui fait qu'on a envie de les suivre. Ce sont des vrais pères en ce sens-là, qui nous font grandir. Un père, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait grandir et qui en même temps accompagne. Voilà. Eh bien, je crois, et c'est d'ailleurs le caractère infiniment précieux de grands-parents ou de parents vis-à-vis des plus jeunes, c'est d'être ceux qui font grandir, c'est-à-dire qui donnent envie, qui transmettent et qui donnent envie et qui... Il n'y a rien de pire qu'un adulte blasé, cynique, qui dit à un jeune « mais c'est même pas la peine » ou « arrête de rêver ». Ça, c'est terrible, voyez. Bien sûr que nous, on est un peu patiné par la vie, bien sûr qu'on a... Il suffit d'avoir un peu vécu pour avoir eu ses propres blessures, ses échecs, d'avoir connu, de savoir que c'est pas si simple. Mais justement, ce qui est beau, c'est au cœur même des épreuves de la vie de garder ce désir d'absolu, ce désir d'infini. C'est ça l'espérance du ciel, c'est ça qui nous fait marcher. On est en pèlerinage et on ne peut pas poursuivre ce pèlerinage si on n'a pas gardé le désir du but, du sommet, de l'arrivée. Et au soir de notre vie, bien sûr qu'on sera tous un peu blessés, tous un peu abîmés, un peu cabossés, mais ce n'est pas grave. Il faut que le bon Dieu, quand il viendra nous chercher, trouve un cœur qui désire, d'un ardent désir, le voir.
Eh ben merci beaucoup Pierre-Hervé Grosjean d'être venu au micro de Vivante Église à l'occasion d'un de vos passages à Toulouse. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre « Donner sa vie » paru aux éditions Arthège. Merci beaucoup.
À vous. Merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.